OK, on va commencer notre 35e leçon. Aujourd'hui, on va être sur les actes immanents et éternels de Dieu, l'adoption et la justification des élus. Non seulement l'union des élus en Christ, mais aussi leur adoption et leur justification en Christ sont des actes éternels et immanents de Dieu. Cet enseignement-là est promu et défendu par un nombre important d'éminents théologiens calvinistes. Cependant, cet enseignement n'est pas promulgué par la majorité de ceux qu'on appelle les néo-évangéliques et les arméniens. Donc, cet enseignement-là reçoit beaucoup d'opposition et beaucoup d'objections, cherchant à le ridiculiser ou à le discréditer. Mais la question est plutôt, est-il biblique? Le premier point qu'on va regarder, c'est l'adoption des élus en Christ est éternelle. Quand on parle du mot « adoption », ça vient du latin « adopto » et c'est composé de deux parties « ad » et « opto ». Si on regarde les deux parties mises ensemble, ça véhicule vraiment l'idée de « choisir ». Alors, cette adoption trouve sa source dans la volonté divine selon le bon plaisir de Dieu. Et comme on le sait, on l'a vu fréquemment dans les Saintes Écritures, cette adoption est une grâce et cette grâce-là possède différentes caractéristiques. La première caractéristique, c'est une grâce souveraine. Une grâce souveraine, ça veut tout simplement dire que Dieu n'était pas sous une obligation quelconque de l'extérieur par quelque chose que ce soit. Il a pris sa décision, une décision qu'on pourrait dire royale. Donc, il est le roi, il doit prendre toutes les décisions qu'il veut. Souveraine, c'est ce que ça veut dire. Éphésiens 1:5, « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » C'est important de réaliser aussi qu'après que Dieu nous a justifiés, il n'était pas dans l'obligation de nous adopter. Quand on lit le livre « Esclave » de John MacArthur, il fait bien comprendre que, dans le fond, l'adoption, Dieu nous choisit et nous donne le titre comme si on était des enfants d'adoption. Et ça l'amène beaucoup de responsabilités par la même occasion. C'est aussi une grâce singulière. Ce qu'on veut dire par une grâce singulière, c'est qu'elle est accordée aux hommes élus seulement, et non aux anges. Donc, une grâce singulière, ça s'adresse à des individus. Le Seigneur avait choisi ceux et celles qui, dans le temps et dans l'espace, recevraient la grâce en Jésus-Christ. Une autre expression qui se rattache au mot « grâce », c'est une grâce merveilleuse. 1 Jean, chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. » Je me souviens du pasteur de l'église de Sherbrooke, à laquelle j'allais pendant plusieurs années. C'est un verset qui le faisait littéralement pleurer, lui, ce verset-là. Il nous le disait souvent. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Si on réalisait la beauté de ça, c'est sûr qu'on viendrait aux larmes aussi. Cette adoption-là ne commence pas dans le temps. Elle n'arrive pas au moment de croire, ni au moment de la régénération. Dans Romains 8, versets 14 à 16, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, on reçoit l'esprit d'adoption parce que l'adoption avait déjà été décidée. En passant, « Abba », ça veut dire comme « petit papa d'amour ». C'est vraiment une expression très intime et très chaleureuse qu'on pourrait traduire le mot « Abba ». Le Seigneur l'a utilisé envers son propre Père. Et nous-mêmes, les Écritures nous disent qu'on par lequel on crie. On reçoit l'esprit d'adoption et on crie vers Dieu. On sent qu'il est envers nous un petit papa d'amour. Alors, ce n'est pas une petite expression. Jean 11, verset 52. Ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, elle ne commence pas dans le temps, mais elle commence dans l'éternité, notre adoption. Les élus sont donnés à Christ avant que le monde existe. Jean 17, versets 2, 6, 9 et 24. Verset 2, « Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » J'ai fait connaître, verset 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Verset 24, Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Voyez-vous, dans les quatre versets, l'expression « ceux que tu m'as donnés » revient dans les quatre versets. Donc, c'est vraiment la grâce de l'adoption avait été donnée par le Père en Jésus-Christ, et au moment, nous, on en prend conscience uniquement au moment de notre génération, notre conversion, mais on était dans l'Esprit de Dieu, déjà dans l'éternité. Jean 6, verset 37, Jésus dit, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Voyez-vous, la condition de venir au Seigneur, de recevoir la grâce, c'est vraiment qu'on avait déjà été donné du Père au Fils dans l'éternité. Ça le dit bien, « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Et c'est Christ qui parle. 2 Timothée 1:9, « Qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » Vous, ça parle de son propre dessein, donc le dessein, c'est sa décision. Quand on parle de vocation dans les Écritures, on parle toujours d'appel. Vocation, ça veut dire le mot la voix, appeler. On a été appelé selon à cause qu'il nous avait déjà choisi. Et c'est une grâce, donc quelque chose que nous ne méritions d'aucune façon. Et elle nous avait été donnée, la grâce, en Jésus-Christ, avant l'état éternel. Donc ça implique, toutes ces choses-là avaient déjà été décidées de toute éternité. Hébreux 2, verset 13. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Dans le cadre d'Hébreux 2, 13, c'est Jésus qui retourne au ciel, il va dire à son Père, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Alors, il est déjà retourné au ciel, on le sait, à la Pentecôte, et, pas à la Pentecôte, du jour avant, et déjà, il peut dire, vu qu'on est en lui, on était en lui de toute éternité, il est venu sur la terre, il a accompli l'œuvre que le Père lui avait confiée, il est retourné au ciel, on est encore en lui. Alors l'image de l'ancre solide et sûre qui est en lui, déjà, lui est rentré dans le sein des saints comme notre souverain sacrificateur. C'est drôle qu'on étudie ça ce matin parce que ça a un lien très fort avec la leçon qu'on va étudier sur le tabernacle. C'est vraiment, on dirait que le timing est bon. Psaume 45, verset 14. On parle ici de la fille du roi, l'épouse du Christ. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont amenées auprès de toi. Alors, le psaume 45, verset 14, parle de quand l'épouse, qui est l'Église, va être présentée c'est ça, la fille du roi, qui est nous, l'Église, peut être présentée au roi. Deuxième point, la justification des élus aussi. Donc, le premier point qu'on vient de regarder, c'est que l'adoption était déjà une décision de Dieu dans l'éternité. La justification, c'est aussi une décision éternelle. La justification est un acte de la grâce de Dieu. Tite 3, verset 7. Il nous a sauvés. C'est-à-dire à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Vous voyez ici, le verset est clair pour nous enseigner qu'on n'est pas sauvé, ça dit bien, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Alors, le Seigneur ne s'est pas basé sur une vision dans le futur pour voir comment une personne se comporterait et qu'éventuellement, il prendrait l'ensemble des actions qu'il a fait, il mettrait ça dans une balance, puis s'il a fait plus de bonnes actions que de mauvaises, il irait au ciel. Les Écritures sont extrêmement claires là-dessus. Ce n'est pas basé, le salut n'est pas basé sur nos œuvres à nous. Le salut est basé sur l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. On va revenir aussi dans la doctrine de la justification plus en détail dans des leçons ultérieures. Romains 3, versets 23 à 24. « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ici, il y a beaucoup de personnes, dans le fond, je me souviens d'avoir déjà lu ce verset-là avant que j'étais sauvé. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Je pense qu'il doit être un des versets qui est le plus utilisé dans l'approche pour évangéliser les gens. Mais on comprend pas nécessairement qu'est-ce que ça veut dire. Privé de la gloire de Dieu, ça veut dire que tous les hommes qui sont nés d'Adam, on est tous tombés pécheurs, on est tous condamnés et on est privé de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la communication entre le pécheur et Dieu ne fonctionne plus. Et si on décède dans cet état-là, on s'en va en enfer pour l'éternité. C'est ça être privé de la gloire de Dieu. Mais après ça, ça dit « Et ils sont gratuitement justifiés » par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La justification, c'est important de comprendre que c'est un acte éternel de Dieu. C'est une décision, c'est comme le juge de l'univers, celui qui ne peut pas avoir d'instance supérieure. Nous, quand on parle de jugement d'homme, il y a toujours une instance supérieure jusqu'à ce qu'on se rende à la Cour suprême. Quand on se rend à la Cour suprême avec une cause, quand la Cour suprême décide de quelque chose, il n'y a plus rien à faire, on ne peut pas aller plus haut que ça. Mais la justification, ça veut dire qu'on est déclaré juste par Dieu lui-même. C'est comme si Dieu avait une grosse face, puis il dit, il nomme nos noms, puis il dit « juste ». Il nous déclare juste. C'est important de comprendre le concept de la justification. C'est un concept fondamental en théologie. Si on ne comprend pas ça, il y a un gros point de la théologie qu'on n'a pas compris. La justification, ça veut dire être déclaré juste. Comment Dieu peut-il déclarer un pécheur comme étant juste? Il y a un problème, parce que Dieu a dit que tous les péchés que les hommes ont commis, que ce soit en pensée, en parole, en action, en omission, ou des péchés secrets, faut qu'ils payent pour. Puis payer pour, ça veut dire aller en enfer pour l'éternité. Dieu ne se contentera de rien de moins que ça. Alors, il faut que les péchés soient payés. Ça, c'est la première partie. Mais la déclaration juste, je vous conseille fortement 2 Corinthiens 5, 21, c'est un verset clé qui comprend en capsule tout l'Évangile au complet. 2 Corinthiens 5, 21. Allez le voir, étudiez-le, et vous allez voir que tout l'Évangile est là-dedans. Dans 2 Corinthiens 5, 21, ça dit que Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre comme représentant le second Adam, lui n'avait aucun péché, d'aucune forme. Non seulement il n'avait jamais fait de péché, il n'en a jamais commis d'aucune façon, ni en pensée, ni en parole, ni en action, ni en omission, aucunement. parfaitement. Donc, il a fait une vie parfaite. Ce que Christ, la justification, c'est que Dieu, le Père, a pris les péchés de ses élus et les a placés sur son Fils et a considéré son Fils comme s'il était nous, comme s'il était un pécheur, alors qu'il ne l'était pas. Donc, l'imputation, ça veut dire qu'il a pris nos péchés, il les a mis sur le compte de Christ et il a jugé nos péchés en lui. Première partie. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne comprennent pas la deuxième partie. Et c'est d'une importance capitale parce que le Père exigeait également non seulement que nos péchés aient été payés. Il y a deux manières. Ou c'est nous qui les payons, ou c'est quelqu'un d'autre. Quand on est chrétien, on est conscient qu'on ne payera pas pour nos péchés, que c'est Christ qui les a payés. Il les a payés l'ensemble de nos péchés, passés, présents, futurs. Donc, la question du péché dans la vie du chrétien est réglée en Christ. Mais si le Père n'avait pas pris aussi le côté juste, quand Christ est venu sur la terre, il était notre représentant. Et quand il a vécu sur la terre, il a mené une vie juste dans tout ce qu'il a fait. Il n'a jamais manqué à aucun commandement de Dieu. D'aucune manière, il était aussi soumis à la loi juive, donc les lois cérémonielles, les lois civiles de l'Ancien Testament. Il s'est soumis à tout ça. Et à cause du fait que Dieu a jugé nos péchés en Christ, donc nos péchés étaient réglés. Après, il a fait le contraire. Nous, on a pris nos péchés, on les a placés en Christ. Dieu le Père a jugé nos péchés sur Christ à notre place. Mais après, il a pu transférer la justice de Christ sur notre compte. Donc, le salut, c'est une imputation dans les deux sens. Nos péchés sur Christ, la justice de Christ sur nous. C'est d'une importance capitale à saisir parce qu'aux yeux de Dieu, nous sommes déclarés justes, non pas parce qu'on a fait des bonnes actions durant toute notre vie. Ça n'a aucune valeur à ses yeux. Il nous dit que nos actes justes sont à ses yeux comme un vêtement souillé. C'est un torchon souillé même dans l'hébreu. Alors, à ses yeux, nos bonnes actions, avant, si on pense qu'on est sauvé sur cette base-là, Dieu nous dit comme un torchon souillé. Importance capitale à saisir le concept de la justification. Nos péchés ont été placés sur Christ, donc imputation, ça veut dire mettre sur le compte. Il a pris nos péchés, il les a mis sur le compte de Christ, il les a jugés en Christ. Et après, la vie parfaite de justice, d'obéissance parfaite en tout point à la loi, a pu nous être transférée sur notre compte à nous. Donc Dieu nous voit comme si on avait accompli la loi à la perfection. C'est ce qu'on appelle dans la sanctification positionnelle. Aux yeux de Dieu, nos péchés sont réglés et la justice parfaite qu'il exigeait pour qu'on puisse vivre en sa présence a été accomplie aussi par Christ. Nos péchés par Christ, notre justice par Christ. Quand on parle de notre robe de justice, on est revêtu de la robe de justice de Christ et ça donne vraiment bien ce matin. On va voir les vêtements du souverain sacrificateur et on va voir que il y avait un vêtement qu'il portait. Le premier, celui qu'il avait sur son corps, était parfaitement blanc, qui était à l'image de sa parfaite justice. Donc, les théologiens identifient deux aspects à la justification. La justification active, c'est Dieu qui justifie, c'est un acte immanent et éternel. Et la justification passive, c'est-à-dire nous, quand on en prend conscience. Ce qui était décidé de toute éternité, nous, on en prend conscience uniquement après qu'on est sauvé. Ou un peu plus tard, des fois, en recevant de l'instruction, ou en comprenant mieux nos Écritures. La justification ne commence pas dans le temps. La justification précède la foi. Celle-ci est l'effet de la justification et non la cause. John Gill utilise les expressions suivantes. Je vais vous les dire en anglais, puis moi je les ai traduits à ma façon, je ne sais pas si je suis correct. Il dit « La foi n'est pas la cause », lui dit « the moving cause ». Alors moi je l'ai traduit par « entraînante ». C'est pas à cause de ta foi que tu es sauvé, c'est Romains 3, 24, qu'on a vu un peu plus haut. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La foi non plus n'est pas la cause efficiente. Romains 8, 33. Qui accusera les élus de Dieu? Ça nous dit bien, c'est Dieu qui justifie. Mais il ne justifie pas sur n'importe quelle base. Il justifie sur la base que nos péchés ont été payés dans la personne de son Fils Christ et il nous déclare juste à cause que la justice de Christ nous est imputée ou transférée sur notre compte. On peut voir ça en termes de comptabilité. On met toutes nos cochonneries sur Christ et lui, il met tout ce qu'il y a de meilleur sur nous. La foi n'est pas non plus la cause instrumentale. Si la foi est l'instrument de la justification, cet instrument est soit de Dieu, soit de l'homme. Or, la foi n'est pas un acte de l'homme, mais un don de Dieu. On l'a dans Éphésiens 2, 8. Dans Romains 3, 25, 26, c'est lui, parlant de Christ, que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. La foi n'est pas non plus un acte de Dieu, puisque ce n'est pas lui qui croit. La foi n'est pas la cause non plus méritoire. C'est de croire en l'œuvre de Christ, à la fois en son obéissance active et son obéissance passive. Romains 5, versets 9 et 19. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme, on parle d'Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, ici dans le contexte on parle de Christ, beaucoup seront rendus justes. C'est l'œuvre de Christ qui permet à la grâce de s'actualiser, de se réaliser. C'est donc la base de la justification et non sa source. L'effet, la foi est l'effet de la justification éternelle. Hébreux 11, verset 1. Moi, je trouve que dans l'anglais, c'est dit d'une façon qui est plus évidente, parce qu'il dit « Faith is the evidence of things not seen » dans la version King James. Dit que la foi, c'est l'évidence des choses qui ne sont pas vues. Mm-hmm. En français, on dit « Or, la foi est ferme, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Autrement dit, quand la version anglaise utilise « faith », donc la foi, c'est l'évidence des choses qui ne sont pas vues. C'est l'évidence, c'est la preuve. Mm-hmm. Romains 1, verset 17, « Pour qu'une chose soit révélée, cela suppose sa préexistence. » Parce qu'en lui est révélé, dans Romains 1, verset 17, parce qu'en lui, en Christ, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, si quelque chose est révélé, la justice de Dieu, ça implique qu'elle existe déjà avant. Romains 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors ici, un verset qui vient nous rassurer, pour nous dire que tous nos péchés sont réglés. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si Dieu nous a placés en Jésus-Christ et que dans le temps, nous a fait comprendre par la régénération, l'œuvre de Christ, la personne de Christ, nous a fait comprendre que ce n'est pas par nos actes qu'on est sauvés, mais à cause de la justice de Christ, la parole nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quelle bonne nouvelle pour nous! Éphésiens 1, verset 6, ça dit « À la louange de la gloire de sa grâce dans laquelle il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. » C'est dans la version Darby. On est rendu agréable aux yeux de Dieu, non à cause de nos œuvres, mais on est rendu agréable dans le bien-aimé, avec un B majuscule, donc on parle de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Pourquoi Dieu ne nous jugera pas? Pourquoi on est réconciliés? Pourquoi il n'y aura aucune condamnation pour nous? Bien simple, parce que nos péchés sont déjà réglés. Il y a quelqu'un qui a déjà payé pour. Et ça, c'est une chose à méditer dans nos vies chrétiennes. Jamais on n'aura assez de gratitude pour exprimer au Seigneur le fait que nos péchés ont été pardonnés, ont été réglés, ont été payés par Christ. Parce que si on en prendrait conscience, je suis convaincu qu'on tomberait en pleine face à terre, puis on pleurerait comme des enfants. J'en suis pleinement convaincu. C'est parce que, des fois, les termes de théologie, à force de les entendre, on ne prend plus véritablement conscience de ce que ça voudrait dire être plongé vivant dans le lac de feu pour l'éternité, avec tout ce que ça implique. C'est de ça que le Seigneur nous a sauvés. Alors, c'est une chose à méditer et à remméditer et à reméditer et à se garder dans l'esprit, parce que la justification, c'est pas une petite chose. Romains 3, verset 25. C'est lui que Dieu a destiné, ici il parle de Christ, par son sang, à être pour ceux qui croiraient la victime propitiatoire. Donc, propitiation, ça veut dire détourner la colère de Dieu. La colère de Dieu qui devait venir sur nous a été détournée pour aller sur Christ. Afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Hébreux 9, 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Maintenant, c'est sûr qu'on a parlé que cette doctrine-là avait des gens qui avaient des objections face à la doctrine. On va regarder quelques objections qu'ils apportent et on va réfuter. Alors, la première objection, c'est les hommes ne peuvent pas être justifiés avant d'exister. Alors, en théologie, il y a des personnes qui sont arrivées et on dit, « Ouais, c'est bien beau ce que tu dis, même avec tes versets, mais la raison. » La raison a bien de la difficulté à croire ce que Dieu dit. Elle a de la difficulté à se soumettre. Elle cherche toujours à amener les concepts théologiques à leur niveau. Alors, ça fonctionne pas nécessairement comme ça. Alors, si on tient compte de cette objection, nous devrons aussi en tenir compte concernant l'élection. Cependant, les Écritures enseignent clairement que les hommes sont élus avant qu'ils existent. Acte 15, verset 18. « Afin que le reste des hommes cherche le Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. » Donc, notre être actuel n'était pas là lorsque la décision a été prise, mais notre être préordonné était déjà en lui. Le Seigneur savait déjà que le 21 septembre 1946, il y avait une personne qui viendrait au monde qui s'appellerait Marcel Longjean. Il savait que c'était pour être un pécheur. Il savait qu'à une date X, le Seigneur était pour venir lui faire comprendre que son salut. Et c'est la même chose pour tous les noms autour de la table ici et pour tous ceux qui entendraient le message éventuellement. Parce que Dieu nous dit que toutes ces choses se sont réalisées en Christ. Notre être actuel n'était pas là. C'est sûr que c'est difficile à comprendre pour nous. Autant comme la doctrine de Romains 5, 12, quand le Seigneur nous dit qu'on est coupable de la faute d'Adam parce qu'en quelque sorte, on était en lui. Là, les objections, ils arrivent toujours et se disent, comment je peux être tenu coupable pour un acte qu'une autre personne a fait? Parce que Adam, c'est pas nous qui tombons, c'est Adam. Mais les Écritures nous disent qu'on était en Adam, le premier Adam. Et c'est à cause de ça que les Écritures nous disent qu'automatiquement, en étant en Adam et que lui a chuté, on chutait tous en même temps. Tous les êtres humains qui viendraient au monde dans le temps et dans l'espace recevraient toute leur nature pécheresse. Deuxième objection. Ils vont dire les hommes ne peuvent pas être justifiés avant de pécher. Qu'on peut amener comme réfutation, ce n'est pas plus absurde de dire que Christ a payé la punition des péchés que nous n'avons pas encore commis. Dans le fond, il y a des péchés que je n'ai pas encore commis, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, et ceux d'ici, que tous les péchés que je vais avoir commis, que ce soit en pensée, en parole, en action, en omission ou secret, sont tous déjà payés. Payés pour des péchés que je n'ai pas faits. Mais dans l'Esprit de Dieu, toute ma vie est déroulée. Il sait toutes les moindres choses qui vont m'arriver, qui m'est arrivé depuis ma naissance jusqu'à ma mort. Alors mes péchés, à partir d'aujourd'hui jusqu'à ma mort, il les connaît aussi. Et ils ont été payés lors de l'œuvre de Christ sur la croix et sur la terre. La troisième objection, c'est les gens disent « Cet enseignement ne respecte pas l'ordre des mots rencontrés dans certains versets. » Par exemple, des fois, quand vous prenez Romains, il les a justifiés, il les a glorifiés, toutes ces affaires-là, il y a des ordres, il y a un ordre de mots. Alors, c'est sûr que cet ordre est aussi renversé dans d'autres versets. Par exemple, si on prend 2 Timothée 1:9, ça va nous dire qu'il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation. Donc, il nous parle de l'appel après le salut. Donc, l'ordre n'est pas nécessairement dans un ordre logique pour nous. Dans les Écritures, ça arrive souvent, on ne peut pas bâtir une doctrine sur le fait qu'un mot précède un autre dans une phrase. Alors là-dessus, les autres, ils se basent là-dessus en disant « Ah, mais il y a des places dans les Écritures où les mots sont inversés et ça ne peut pas avoir un sens. » Les docteurs juifs avaient coutume de dire qu'il n'y a pas de priorité ou de postériorité dans les Écritures. Exemple, le Saint-Esprit ou le Fils est quelquefois mentionné avant le Père. Alors, si on tiendrait compte de cette objection-là, on dirait, à cause que le Saint-Esprit est mentionné avant le Père, ça implique une supériorité de l'Esprit sur le... Ça ne fonctionne pas comme ça. Nous ne pouvons pas tirer d'arguments de supériorité ou d'antériorité basés sur de telles observations. Nous pouvons harmoniser en mentionnant que la justification active, donc celle de la décision de Dieu, précède l'appel, tandis que la justification passive suit l'appel. C'est sûr que Dieu, lui, il nous avait décidé de justifier de toute éternité. Nous, c'est simplement, quand on parle de justification passive, c'est nous, on s'en rend compte juste dans le temps, au moment de notre salut, et bien souvent, pas des fois au complet au moment de notre salut, c'est des fois par l'instruction chrétienne, par la lecture des Écritures, en approfondissant les doctrines qu'on prend conscience de ces choses-là. La quatrième et dernière objection, ils disent, si les élus sont justifiés avant d'exister, cela fait d'eux d'être ou d'avoir été simultanément des enfants du diable et des enfants de Dieu. Comme semble enseigner Éphésiens 2:3. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, ils se basent là-dessus, ils disent, si on dit qu'on était des enfants de colère, ils disent qu'on ne peut pas être à la fois justifié et être un enfant de colère. La réfutation de ça, l'explication de ça, c'est que l'élu doit être considéré comme faisant partie ou étant relié à deux alliances ou deux chefs ou représentants simultanément. Alors, comme pécheurs, on était en Adam, et comme sauvés, comme élus, on était en Christ, et à quelque part, ce n'est pas une contradiction que de dire qu'on était justifié parce que, à quelque part, dans le temps, on était dans Adam, mais dans le temps, le Seigneur nous a révélé Christ, sa personne et son œuvre, et à cause du fait que là, on est dans le second Adam, il n'y a pas une contradiction. Alors, l'alliance des œuvres, l'homme qui chute et qui pêche en Adam, l'alliance de la grâce, c'est Christ, aimé éternellement, choisi, vu et estimé juste en lui, sauvé de la colère et de la condamnation. Ce que je disais à l'Unis mercredi, la réponse à ce qu'elle demandait est exactement là. Comment, si quelqu'un est justifié de toute éternité, À un moment donné, il a été pécheur. Ça veut dire qu'il n'était pas justifié à ce moment-là. Il l'était dans l'Esprit de Dieu. Il l'était dans le conseil de Dieu. Il était dans la décision de Dieu. Mais éventuellement, quand il est venu au monde, il était en Adam. Tous les hommes étaient en Adam. Quand Adam a chuté, tous les hommes ont chuté en lui, avec lui. Donc, à quelque part, nos êtres ont été en deux personnes, deux représentants. Ce qu'on appelle les chefs ou les représentants. On était en Christ de toute éternité. On était en Adam au moment de notre naissance. Et ça n'a pas une contradiction que d'être dans les deux. Alors, c'est la réponse est l'homme doit être considéré comme faisant partie ou étant relié à deux alliances. La première alliance, celle en Adam, et la deuxième alliance. Quand le Seigneur dit dans Hébreu qu'il venait partir une nouvelle alliance, l'alliance en son sang, il parle de l'alliance éternelle. Quelles sont les applications qu'on peut tirer de la leçon d'aujourd'hui? Je dirais les doctrines de l'union éternelle en Christ, de l'adoption éternelle en Christ et de la justification éternelle en Christ. Nous rassure et nous amène à l'adoration et à la louange. Dieu est parfait, son œuvre est parfaite, qu'il soit loué éternellement.
Amen. Amen.